und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Wie geht's? Do you feel good? Comment ça va? Bien!
Toi qui nous écoute, peut-être, on espère. Vous êtes bien à l'écoute donc de Radio Canu, comme vous en avez douté, je pense, en écoutant les bandes continues. Il est 22h et c'est donc l'heure de la causerie, comme tous les dimanches environ. Et ce soir, dans les studios, nous avons à la technique Clara.
Bonsoir.
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 Bonsoir Jean-Yves.
Bonsoir Fab.
Bonsoir.
Oh, c'est original, ces présentations sont faites, donc c'est voilà. Super. Merci beaucoup. Voilà. Eh bien donc, comme à notre habitude, on va vous rappeler, même si ça doit vous saouler peut-être à la longue, mais on le fait quand même.
Ça saoule surtout quand on le souligne en plus.
Oui, mais je veux dire, c'est aussi pour démontrer qu'on a conscience que potentiellement ça vous saoule, mais qu'on espère toujours que des personnes vont se saisir des informations que nous donnons.
Oui, tout à fait. On les remercie
mais
d'ailleurs.
Il faut leur répondre aussi.
Oui, c'est vrai.
Et ça va. Hein. Alors, donc, si tu veux nous écrire, tu n'hésites pas, c'est par mail. Alors, si tu veux nous écrire, ça peut être pour nous dire qu'on fait de la merde. Ça peut aussi être pour nous dire, bah, je vous aime bien, ou je vous écoute, ou enfin tout ça, si c'est pour débattre. Mais aussi, si vous êtes un ou une artiste, et artiste, c'est au sens très large, n'est-ce pas?
Si vous créez quelque chose et que vous avez envie d'en parler.
Waouh, tout à fait. Voilà. Si vous êtes créateur, quoi, créatrice.
Voilà, ou si vous avez envie de parler d'un sujet et que vous voulez l'exposer, et que ça vous paraît important de venir témoigner, ben, on est là pour ça aussi.
C'est tout à fait cela, mais c'est beau ce travail d'équipe. Donc, ça se passe par mail, hein, effectivement, c'est à lacauseriecanu@gmail.com, lacauseriecanu@gmail.com. Vous pouvez évidemment retrouver toutes les 481e émission précédente sur le blog de l'émission. Ah oui, je regarde pas la bonne page. 482 émissions précédentes.
C'était juste pour que vous ayez son rire ce soir.
Alors, le blog, hein, on en était là, je crois. Donc, c'est à blogs.radiocanu.org/lacauserie. Sinon, tout simplement, vous tapez La Causerie Radio Canu et vous devriez tomber sur nous grâce à votre petit moteur de recherche, quel qu'il soit. Normalement, quand même, on est présent. Et puis je crois que non, il y a quoi? Il y a aussi un réseau socio-commercial qu'on ne citera pas. Non, si c'est Facebook, en fait, il y a la page de La Causerie. On reposte simplement l'émission de la semaine précédente.
Et les espaces podcast où vous tapez La Causerie Canu et vous nous trouverez normalement sur à peu près tous les podcasts possibles et imaginables de la Terre entière. Et oui, parce que ça y est, on y est presque. On va conquérir le monde.
Ouais, voilà. Oui. Oh, pardon, on n'oublie pas cette mission absolue que nous avons. Voilà, je crois qu'on a, je crois qu'on a tout.
Bah oui, on a fait le tour. Et du coup, on va pouvoir commencer ce soir chronique, hein, parce qu'on n'a pas d'invité. Et donc, du coup, c'est toi, Jean-Yves, qui démarre avec un sujet sur lequel tu reviens régulièrement, mais c'est important. Parce que malheureusement, on n'en a pas fini avec la peine de mort.
C'est tout à fait ça. Comme il y a un peu plus d'un an, je vais vous causer effectivement ce soir du rapport annuel d'Amnesty International sur la peine de mort dans le monde pour l'année 2002, de janvier à décembre 2002. Donc.
2022.
J'ai dit 2002. Ah oui, 2022. Ah,
tu ne veux pas vieillir, mais nous sommes en 2022.
Ouais, là, quand même. je m'inquiète de ma propre santé. Ce rapport, il est sorti il y a une petite quinzaine de jours. Alors, comme à chaque fois, hein, il ne s'agit pas d'un grand cri de victoire parce que non, mais qu'en même temps, il y a quand même des avancées positives et des bonnes nouvelles, même si, encore une fois, on n'oublie pas, hein, que des milliers de personnes continuent d'être assassinées légalement par des États. Alors, comme l'année dernière, quand même, j'aime bien quand même le rappeler, comme le fait d'ailleurs Amnesty aussi à chaque fois, c'est le cadre, en fait, et les limites aussi, qu'il y a dans ce rapport et en lien avec ce rapport. Donc, comme les années précédentes, hein, les informations proviennent de diverses sources. C'est des données officielles, des décisions de justice, des renseignements fournis par les condamnés à mort et leurs familles, ou encore des représentants de ceux-ci, celles-ci. Des informations aussi parues dans les médias et des rapports aussi d'autres organisations de la société dite civile. Donc Amnesty International se limite à faire état des exécutions, des condamnations à mort et de certains autres aspects de l'utilisation de la peine de mort, tels que les commutations et les déclarations d'innocence lorsque les informations dont elle dispose ont été raisonnablement confirmées. On n'oublie pas non plus, hein, quand même, que dans de nombreux pays, le gouvernement s'abstient de publier des données sur l'application qu'il fait de la peine de mort, que ce soit en Chine et au Vietnam. Les chiffres relatifs à l'application de la peine de mort, par exemple, sont classés secrets d'État. Pour d'autres pays, les informations sont restées rares, voire inexistantes, en raison, là encore une fois, c'est pas sous le couvert de secret d'État, mais dans l'absence de transparence en fait, de l'État.
C'est le cas de l'Iran, par exemple, où les exécutions qui ont lieu dans les prisons ne sont pas comptabilisées, seules les exécutions qui ont lieu à l'extérieur le sont. Ouais. Donc, c'est-à-dire que ça minore le chiffre, en fait.
Oui, en fait c'est ça qui ressort de tout ça, c'est que les statistiques d'Amnesty International restent des estimations à minima. Et on est, comme tu le disais, en fait, on est en droit de penser que la réalité est encore pire. Hein. Voilà, donc les bonnes nouvelles, ce sera plus tard, mais c'est pas tout de suite là. Donc cette année 2022. Alors, selon les informations disponibles et recueillies par Amnesty, il y a 20 pays qui ont exécuté au total 883 personnes, contre en 2021 579 personnes dans 18 pays. On est donc sur une augmentation de 53% des exécutions recensées, hors Chine par exemple, en sachant que la Chine est classée comme le premier pays assassin. Quoi,
oui, hein. Ça se compte en milliers chaque année en fait, a priori. Mais alors, je me permets de rebondir sur ce que tu disais, parce que l'année dernière tu disais qu'il fallait se méfier de la baisse, parce que c'était sûrement un effet Covid.
Oui.
Et que du coup, ça se finit pas, ça se voit, parce que cette année qu'il y a moins le Covid ou plus le Covid, on repart à la hausse.
Ah oui, c'est
horrible,
ça en fait.
Mais
c'est ça. Et en plus, on a deux nouveaux pays qui rentrent dans la course des pays assassins, des États assassins, quoi. Donc cette nette augmentation du nombre d'exécutions dans le monde durant l'année est principalement due à la forte hausse enregistrée au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, où le nombre a bondi de 59%, juste pour cette zone-là, hein, passant de 520 personnes exécutées en 2021 à 825 en 2022. 825 sur un total de 883 assassinats d'État. Donc, dans cette partie du monde, hein, toujours Moyen-Orient et Afrique du Nord, 70% des exécutions recensées ont eu lieu en Iran, où on dénombre 576 assassinats en 2022 et où on en comptait en 2021, j'ai pas envie de dire seulement parce que c'est pas possible, 314, ok ? Ce qui fait qu'en un an, on est sur une augmentation de 83%. Hein.
Ouais, voilà. Juste un point de géo, l'Iran, c'est l'Asie. C'est pas la.
Oui, mais alors là, je reprends leur dénomination.
Ouais,
c'est ça.
J'ai été surpris aussi en le lisant.
Oui.
Je pense qu'il y a une coquille parce que l'Iran, c'est l'Asie en fait.
Ouais.
C'est plus l'Afrique. Quoi. Voilà.
Alors, ils l'ont pas mis dans l'Afrique du Nord, je pense. Non, ça.
Mais
Moyen-Orient.
Voilà, c'est Moyen-Orient. Enfin, c'est très large, quoi.
Mais je pense que c'est en lien avec leur propre découpage de leurs propres antennes, en fait.
Oui,
donc,
il faudrait
que je vois en fait où. S'il y a un Amnesty Iran.
J'aurais plutôt mis ça en Asie mineure qu'au Moyen-Orient. En fait. Mais après, c'est pas grave.
On leur signalera.
Non, mais ça change rien.
Alors, il faut savoir que les exécutions ont aussi augmenté en Arabie Saoudite, hein, où elles ont été multipliées par 3, tranquille, passant de 65 en 2021 à 196 en 2022, ce qui représente le niveau le plus haut enregistrés par Amnesty International depuis 30 ans.
Bah, on voit qu'on peut faire confiance à MBS, hein, donc, qui avait promis qu'il allait revoir sa politique par rapport à la peine de mort. Donc il l'a bien revu, à la hausse.
C'est
donc,
ça.
Voilà. Mais il n'avait pas menti.
Non, il n'avait pas menti.
Bon, c'est... Non, je suis cynique, hein, pardon, mais...
C'est voilà. Un homme de parole.
Ouais, c'est ça, c'est horrible. Hein, mais
voilà. Oui. Il est précisé hein, que ces deux pays exécutent couramment aussi bah, des personnes à l'issue de procès totalement inéquitables. On s'en doute un petit peu. Hein. En Iran, comme l'explique le directeur de DHR, de Iran Human Rights, Mahmoud Amiri Mogadam, à Iran Wire, un média de journalistes iraniens-iraniennes en exil, il dit donc « La République islamique utilise la peine de mort comme un moyen d'instiller la peur afin de maintenir son pouvoir. » Afin de semer la terreur au sein de la population, le gouvernement a multiplié les exécutions de personnes accusées de crimes de droit commun. Oui, parce que justement, selon le rapport, en fait, déjà, plus de la moitié des condamnations à mort en Iran l'ont été. Les exécutions ont eu lieu après le début des manifestations en Iran.
Bah, évidemment.
Hein, donc on comprend bien qu'effectivement, enfin, il a complètement raison, hein, c'est un vrai outil de terreur de l'État pour dire « Regardez ce qui peut vous arriver. »
Et puis surtout qu'en Iran, il y a la notion d'insulte envers Dieu qui permet en fait de condamner à mort à peu près tout le monde.
Sauf que je crois que j'y reviens un peu plus tard, c'est pas la première des raisons. C'est intéressant aussi d'ailleurs. C'est ce que je me suis dit, enfin, et noté, c'est qu'on peut craindre hein, que les exécutions en 2023 ne diminueront pas. Bien au contraire, il faut savoir que depuis le début de l'année 2023, hein, donc là ça fait quoi, 6 mois, on compte déjà 300 condamnés à mort exécutés. Ok. Et pour le seul mois de mai, on a 142 personnes qui ont été assassinées par l'État iranien, soit une petite moyenne de 4 par jour. Ok. Donc là, on peut se dire, s'ils continuent sur cette lancée, je ne sais pas combien de centaines, voire peut-être qu'on va atteindre le millier, quoi. Enfin, et vu le nombre d'arrestations qu'il y a eu au sein des manifs, etc., on peut craindre le pire.
À chaque soulèvement en Iran, hein, c'est l'arme première qui est utilisée par les mollahs, hein, c'est les condamnations à mort en série, et toujours pour des prétextes très fallacieux en plus.
Ouais, en tout cas, c'est une des armes, parce que finalement,
il y a la répression,
il y a les enlèvements, enfin les disparitions dans les prisons.
Oui, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi un des outils qui se voit beaucoup, et en fait, ils l'utilisent très largement. Et d'ailleurs, il y avait des retours sur des corps qui ont été suspendus 5 jours sur une place publique, des choses comme ça. On voit bien que l'intention, c'est comme tu disais, d'instiller la terreur, et ça, malheureusement, ça peut marcher.
Oui, c'était même pas moi qui le disais, c'est monsieur des droits humains en Iran. Quant à l'Arabie Saoudite, hein, bah, faut dire que MBS, hein, comme tu le disais, Mohamed Ben Salman, ayant été revalidé en fait, par les pays riches qui, eux, avaient besoin de pétrole, parce que oui, vous savez, les valeurs derrière du pétrole, bah, ça ne pèse pas lourd, bah, il peut faire en fait, ce qu'il veut en fait, hein, pour imposer son autorité. Et puis bon, il faut quand même rappeler que le gars, il a fait découper un journaliste dans son ambassade en Turquie. Alors dans le pays qui gouverne, je pense que c'est un peu open bar, quoi. Hein. Qu'est-ce qui peut le ralentir finalement, vu qu'il a découpé quelqu'un dans un autre pays, quoi. Enfin donc voilà, c'est que des super bonnes nouvelles. Bref, je continue. Malheureusement, hein, je continue dans les pas bonnes nouvelles, ok. Vous l'aurez compris. Donc malheureusement, les exécutions ont repris aussi du côté de l'Afghanistan, dans l'État de Palestine aussi, au Koweït également, ainsi que au Myanmar, aka Birmanie, et aussi à Singapour. Ok.
Alors. Et aux USA aussi.
Des fortes augmentations des assassinats ont été enregistrés par rapport à 2021 dans les pays cités précédemment, mais aussi aux États-Unis. Donc il l'oublie pas. Hein, de 11 assassinats à 18. Donc.
Ouais. C'est une belle progression.
Une très belle progression. On n'est pas loin de 100%. comme dit en intro, hein, le secret reste complet autour de la peine de mort en raison du pouvoir politique, que ce soit en Chine, en Corée du Nord ou par exemple au Vietnam, ce qui empêche là encore d'être vraiment au plus près de la réalité. Mais comme je vous le disais, on est dans le minima. Donc tout ce que je viens de vous dire, on peut se dire que c'est pire. Voilà. On peut se demander justement par rapport à ce que tu disais aussi, Fab, c'est on peut se demander aussi pour quelles raisons, par exemple, les États assassinent. Alors, j'ai pas toutes les raisons, hein, mais il y en a une qui revient souvent. Ben en fait, et bien que le droit international en fait relatif aux droits humains en fait interdise le recours à la peine de mort pour des infractions n'entrant pas dans la catégorie des crimes les plus graves, c'est-à-dire les homicides volontaires, au moins 4 pays, l'Arabie Saoudite, la Chine, l'Iran et Singapour, ont procédé à des exécutions pour des infractions à la législation sur liées à des infractions à la législation sur les stupéfiant.
C'est facile.
Alors, comme ça, en fait, on en est à, par exemple, 325 exécutions pour de tels motifs qui ont été recensés, soit du double, en fait, du chiffre enregistré en 2021. Mmh. En Iran, par exemple, ça représente 44%, donc 255 personnes, parce qu'il y a 255 personnes qui ont été assassinées, bah, des exécutions enregistrées dans le pays, en fait. Et alors, j'ai pas tout noté, mais c'est hyper, c'est hyper intéressant, c'est horrible de le dire. Mais alors déjà, ça touche les populations souvent les plus pauvres,
bah oui.
Et ça touche particulièrement une des minorités d'Iran. Alors, j'ai plus le nom de cette minorité-là, mais en fait, je crois qu'il représente... Non, c'est une communauté que j'avais jamais entendue, mais enfin de ma petite, de mon petit cervelet. Mais c'est genre, ces personnes représentent la population 7 ou 8%, et en fait, je crois qu'ils ressentent, ils représentent, pardon, entre 30 et 40%, je crois, des assassinats d'État, en fait. Donc il y a toujours quelque chose aussi lié à, aux minorités, lié à la pauvreté, hein, faut arrêter de se mentir aussi, hein. Donc voilà, donc c'est donc vraiment, je vous pousse à aller plus loin dans les dans le rapport de d'Amnesty, parce qu'il y a tout ça qui est détaillé, c'est très intéressant. Mais sinon, je vous aurais fait une émission de 3 heures et je suis pas sûr que ça vous aurait plu dans ce sur ce thème là. Alors, vu que j'en parle quand même depuis le début, on va quand même se dire qu'il y a un petit peu d'espoir. C'est pas rien, et c'est pas non plus à nier, parce que... Oui.
Les Baloutches.
Oui, c'est ça, les Baloutches. C'est exactement ça.
J'ai fait une
ça.
Recherche. Hein,
ouais, merci. C'était oui, pour, j'étais pas sûr, je voulais le dire, mais j'étais pas sûr. Et c'est effectivement les Baloutches qui représentent 10% même
ouais,
pas.
Ouais, c'est ça, 10% de la
et
population.
Et qui représentent 40% des assassinés, quoi. Donc, j'en reviens à, à ces petits espoirs quand même, et ils ne sont pas petits, c'est des espoirs, et il faut les voir aussi comme ça. Donc, il y a 6 pays hein, qui ont aboli entièrement ou partiellement la peine de mort durant l'année 2022. Alors, on peut se dire, si c'est pas beaucoup, et ben c'est déjà 6. Alors, si la Guinée, la Guinée équatoriale et la Zambie ben, l'ont supprimé uniquement pour les crimes de droit commun, donc... Ça continue de l'appliquer pour d'autres choses.
C'est un premier pas.
Mais on peut peut-être se dire que, oui, c'est ça. On peut aussi essayer de voir peut-être le verre à moitié rempli et se dire que c'est peut-être une première marche pour aller vers l'abolition complète. De l'autre côté, le Kazakhstan, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Sierra Leone et la République centrafricaine l'ont aboli la peine de mort pour tous les crimes. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Donc et cette dynamique, hein, qui est plutôt, enfin, cette dynamique positive, hein, en fait, elle a également lieu au Libéria et au Ghana, qui ont pris des mesures législatives en vue de l'abolition de la peine de mort, ainsi qu'au Sri Lanka et aux Maldives. Tiens, deux pays hein, dont les autorités ont annoncé qu'elles n'appliqueraient plus les condamnations à mort. Et il y a également des propositions de loi visant à l'abolir. À abolir l'application obligatoire de la peine de mort qui ont été présentées au Parlement malaisien. Donc voilà, on avance.
C'est pour ça qu'il ne faut rien lâcher.
Oui, c'est ça en fait. Donc en 2022, hein, le nombre de pays ayant totalement aboli la peine de mort a atteint 112 pays.
Sur 197.
C'est pas si mal.
Bah, si on revient juste aux années 80, il y a un énorme pas hein, qui a été fait, donc c'est quand même plutôt pas mal. Et effectivement, ça va pas assez vite, hein, on va pas dire le contraire, mais c'est plutôt bien de voir que bah, c'est des sujets qui sont portés politiquement, et que, parce que ça, c'est une décision politique, hein, faudrait pas oublier la peine de mort avant tout, et que bah, du coup, on voit que ça porte ses fruits dans certains endroits, où moi je sais que la Malaisie, par exemple, je me souviens des premiers qui luttaient contre la peine de mort en Malaisie, où ils se prenaient des coups de tatane, enfin ils étaient, voilà. Et je pense qu'à l'époque, personne ne se serait dit, on va un jour arriver à abolir la peine de mort. Finalement, voilà, on y est, mais c'est la preuve qu'il faut pas lâcher.
Ah, bah oui, mais comme je pense que. Je pense qu'en France, le climat social devait être très bon dans les années 80, quand la proposition d'abolition de la peine de mort Et ben voilà, en fait, c'est aussi ça qu'il faut, ça aussi il faut pas l'oublier.
Ouais, non, mais
en France, c'était à juste 40 ans qu'on a arrêté, ah oui, que l'État a arrêté d'assassiner officiellement et légalement, quoi.
Je vais même dire un truc qui va faire sûrement bondir des plein de gens de l'autre côté du poste, mais si on n'avait pas fait l'Union européenne ou enfin du moins la CE à l'époque, on n'aurait pas aboli la peine de mort en France, j'en suis persuadé. C'est-à-dire que c'est parce que c'était dans les valeurs de la CE qu'on a aboli la peine de mort. Voilà. Parce que la France est un pays plutôt barbare sur sa vision de ce qu'est la prison, la justice et la vengeance.
Oui, donc c'est voilà. Ça, c'est encore à l'œuvre aujourd'hui quand même.
Oui, tout à fait.
Regard,
donc je pense franchement ce que je dis là, sans problème.
Alors, on dénombrait en outre aussi 9 pays abolitionnistes pour les crimes de droit commun uniquement et 23 abolitionnistes en pratique. Alors dans les faits, si on peut voir de plus en plus de pays qui remettent en cause la peine de mort et qu'on peut s'en réjouir, vraiment, vraiment, il faut en être heureux et content. Il est évident, au vu de la hausse des exécutions, que la lutte contre la peine de mort, elle n'est pas terminée, et qu'il me semble important, là encore, de pas l'oublier, en fait, parce que c'est... Enfin, pour moi, c'est pas une lutte à côté, quoi. Enfin, pour moi, ça doit faire partie, en fait, de nos bases.
Bah, elle est même centrale, à mes yeux. C'est-à-dire que c'est quand même un moment... Enfin, moi, pour moi, c'est qu'à partir du moment où...
Pas pour moi.
Non,
moi,
mais c'est pas ça que je veux dire. Non, mais c'est que je veux pas t'entraîner dans ma réflexion. Ce serait un peu... Je vais pas entraîner ni toi ni Clara dans ma propre vision. Mais c'est pour moi, c'est comme ça qu'on juge quand même du degré d'humanité d'un endroit, du monde.
Ah bah, même pas que d'un endroit, en fait. D'un individu.
Oui, voilà. C'est-à-dire quelqu'un qui... Moi, je vous le dis, quelqu'un qui me dit la peine de mort, j'ai rien contre. Bah, je sais déjà qu'il a un problème même avec ce que j'estime être une vision de l'humanité. Parce que voilà, c'est supprimer des vies, quoi. Et à un moment donné, c'est jamais anodin. Voilà.
C'est ça. Bah, c'est ce que je me notais. Hein, c'est que, bah, en fait, l'abolition et en tout cas la lutte pour le maintien de l'abolition de la peine de mort, ça doit faire partie de nos bagages éthiques et politiques, en fait. Et qu'on doit venir sur ce sujet aussi en soutien, en fait, à toutes celles et ceux qui luttent, en fait, dans les pays où elle est encore en application, qui se battent pour l'abolition de cette horreur, en fait, de l'humanité, quoi. Donc, voilà, ce que je me disais, c'est qu'en fait, sur ce sujet comme sur plein d'autres, en fait, l'international, il y a que ça de vrai, en fait, quoi. Parce qu'en fait, il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est qu'on est une seule humanité, en fait.
Ah, c'est sûr. Oui.
Et que ce droit de... Mais moi, c'est... Enfin, vraiment, moi, il y a des trucs, c'est même dans nos manifs, dans nos rangs ou autres. Alors, je dis pas que c'est un truc souvent qui a lieu ou autre, mais ce fantasme, en fait, de l'assassinat, de... En fait, il y a quelque chose de très fantasmé, en fait. C'est-à-dire que, allez, je prends un exemple, si vous voulez assassiner un très haut dirigeant, en fait, il va se passer quoi, en fait? Il y en a un autre qui va prendre sa place, en fait. Parce que tant que la population n'est pas convaincue qu'on peut gérer nous-mêmes nos affaires, bah, il y aura toujours un chef haillon qui viendra prendre la place. Donc vous allez pouvoir en tuer des milliers, en fait, comme ça. Mais vous aurez toujours un chef haillon, en fait, qui prendra une place.
Ça existait en France, ça s'appelait la terreur.
Mais ouais, en
pendant
fait.
Pendant la Révolution, c'est-à-dire que pendant 3 ans, on a zigouillé des tas de gens. Dès quelqu'un était anti-révolutionnaire, vous savez, tac, tac, tac.
Donc c'est...
Ça marche pas, en fait.
Donc c'est tout ce truc, en fait. Et moi, vraiment, je pense que c'est un point absolument important dont on parle pas forcément, parce que c'est... J'ai l'impression que c'est un peu comme plein d'autres choses. On se dit, c'est acquis, en fait.
C'est un impensé.
C'est un impensé. Alors qu'en fait, comme je le disais, ça a juste 40 ans que ça n'existe plus en France.
Tout à fait.
Juste 40 ans. Ce n'est rien, en fait.
Moi, je pense, tu vois, tu parlais ça, je me rappelle de Mélanie qui disait qu'elle était contrainte par l'Union européenne à ne pas pouvoir appliquer ce qu'elle aimerait faire du point de vue de la justice. Le sous-entendu, il est énorme. C'est-à-dire, c'est je ne peux pas remettre la peine de mort, sinon je suis exclu de l'Union européenne. Donc, en fait, on voit que ça pourrait revenir très très vite.
Ah, mais oui,
il suffirait qu'une majorité de fachos soit là au niveau... Voilà, ouais,
je crois... Alors, j'ai pas vérifié dans les derniers programmes, etc., mais je crois que le Front National accale.
Oui, il est pour un référendum sur la peine de mort.
Voilà. Donc,
enfin, un référendum.
C'est déjà une brèche.
Nous, c'est
déjà une brèche, en fait, ouverte. Et c'est déjà un truc de. On peut la remettre en question. Et que ça, en fait, c'est en continuant de cultiver cette lutte, en fait, et se rappeler que c'était il y a pas longtemps ici, que ça continue de l'être ailleurs, qu'on va entretenir le fait que c'est une lutte sur laquelle on doit être vigilant et vigilant tous et toutes, en fait. Mais ça va pour la peine de mort et pour plein d'autres choses qu'on voit qui sont attaquées, détruites, etc., etc. Et que vraiment, oui, les régimes autoritaires, les fascistes sont les adorateurs de la peine de mort, hein, et qu'ils soient nationalistes, religieux ou autres.
Patriotes.
Oui, c'est ça. C'est eux sont souvent du côté de, ils ont le droit, le pouvoir d'assassiner quelqu'un parce qu'ils représentent la justice de je ne sais pas quoi, divine, nationale ou je ne sais pas quoi. Et en fait, non, personne n'a le droit d'enlever la vie de qui que ce soit en fait. Et que en plus, enfin là aussi, hein, il s'est pas oublié. Et on le voit aux États-Unis, etc. Tous les gens qui sont dans le couloir de la mort, alors qu'ils et elles sont innocents.
Il y en a un paquet. Hein,
il y en a un paquet,
en a un
quoi.
Vrai paquet.
Donc c'est là aussi en fait. Hein, c'est combien d'assassinés pour des vrais responsables, pour combien qui n'étaient pas du tout responsables, et que si ça doit coûter la vie que d'une seule personne innocente, ben on doit s'y opposer en fait.
Bah, je vais faire une petite digression, mais il y a un excellent reportage qui est sur la fabrique du mensonge, oui. C'est régulièrement sur la, c'était Lola, hein,
oui,
c'est ça,
tout à fait.
Qui explique comment en fait l'affaire Lola, comme on a dit après, c'est-à-dire le meurtre de cette, d'une petite,
c'était une ado qui a,
une
été,
ado
assassinée,
qui a été assassinée. C'est horrible, il n'y a aucun souci. Et voilà. Sauf que c'est comment l'extrême droite s'est emparée de ce fait divers, pardon de le dire comme ça, on appelle ça comme ça, mais voilà,
ouais, ouais,
de ce meurtre, et qu'elle a en fait instrumentalisé totalement tout ce qu'il y avait autour de ce meurtre. Et si vous regardez un peu la logique de ce qu'il y a derrière, c'est une volonté de dire, regardez, il faut revenir à la peine de mort pour des gens comme ça. Et il y a même Cyril Hanouna qui fait une sortie sur la justice,
lui, il avait
expéditive et rapide.
Lui, il avait lancé un sondage, je crois, ouais, dans son émission que lui, il aimait faire.
C'est un truc de dingue. Et en fait, on voit que ça peut revenir très vite,
très vite,
parce qu'il suffit d'un choc dans la société, oui. et c'est horrible, le meurtre d'une ado, c'est horrible. Mais il suffit d'un choc dans la société pour que ce choc soit instrumentalisé pour ensuite nous faire perdre des valeurs humaines et humanistes. Et ça, en fait, je trouve que ce reportage, il le démontre très bien, et il est même glaçant, parce qu'on voit avec quel cynisme c'est fait, et c'est fait par des gens qui en ont tout à fait conscience. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ont conscience de manipuler la population. Ils n'ont aucun problème à le faire, en plus. Ils achètent des noms de domaine, ils font tout ce qu'il faut. Ils le font sciemment. C'est une volonté politique de le faire. Et on voit que il faudrait peu de choses pour que ça suffise à ce qu'après on dise, bon, faire un référendum. Vous êtes pour ou contre le retour de la peine de mort? Et on voit bien un petit peu toute la logique qui est derrière cette instrumentalisation-là, en fait.
Ah bah oui, et puis, dans tout ça, les parents de cette adolescente assassinée sont contre la peine de mort.
Hein. Oui, puis ils étaient d'une dignité folle, quoi, en plus.
Ils sont complètement... ils sont, comment on dit,
ils aimeraient qu'on leur foute la
désemparés, pas désemparés, mais on leur prend tout, en fait. C'est-à-dire que.
Mais on leur a volé leur deuil.
Leur fille a été assassinée, et on leur vole même l'instant où, finalement, ils peuvent même plus dire ce qu'ils ont envie ou pas, d'ailleurs. Enfin, et que les autres se saisissent de la mort pour effectivement réactiver. Enfin, pour moi, la peine de mort, c'est quelque chose de très, comment dire.
C'est barbare.
Très reptilien.
Ouais,
tu
c'est
sais,
barbare.
C'est.
Je sais pas si le mot est bon, mais ouais.
Non, mais c'est, ouais, enfin, il y a un côté très reptilien, pauvre petite, très animal, quoi. Voilà. Peut-être que je me plante complètement, les vegans me diront que j'ai tort.
Oeil pour oeil, dent pour dent, enfin, c'est
oui,
trucs
c'est
très, très basico-basique.
Donc voilà, donc on n'oublie pas la peine de mort, de lutter contre, et on n'oublie pas toutes celles et ceux qui sont assassinés officiellement et légalement par les États à travers le monde. On passe à la ZIC,
ouais.
Complètement autre chose. Hein, on va se
mais écoutez
se
bien,
détendre.
Ça fait du bien.
Oui.
Je suis un bon copain, seul dans leur salle de bain. Pas de témoin, je fais l'amour à la main. Elle se marre, Héloïse et Victoire, au fond de leur plumard. Et en patience, attendent ma semence. Je fais l'amour à la main, juste 2 millilitres humains. Un monde qui ne sera pas le mien. Je fais l'amour à la main.
Faire un enfant sans terre, ça coûte plus un ovaire. C'est si facile, moi je me branle utile. Je tombe en miettes, en chaude gouttelette, au fond d'une pipette. Aux amoureuses, je donne cette eau précieuse.
Je fais l'amour à la main, juste 2 millilitres d'humain. Un homme qui ne sera pas le mien. Je fais l'amour à la main, 2 millilitres d'humain. Pour faire grandir un gamin. Un homme qui ne sera pas le mien. Je fais l'amour à la main. A plus petit état. Attention au départ. Au courant d'air. Et rentre chez ta mère. Tu es rassuré que les hétéronormés. Sois pas seul à en chier. Santé, bonheur et force à vous les sœurs.
Je fais l'amour à la main, juste 2 millilitres d'humain.
Pour faire grandir.
êtes toujours à l'écoute de Radio Canut et de La Causerie. Et on vient de s'écouter un tout nouveau titre de Rookine. Et le titre, c'est L'amour à la main. Pour se branler utile, quoi. Et
qu'est-ce que c'est bien.
Oui, c'est très, très
enfin, comme
bien.
Quasiment tout ce que fait Rookine, quoi.
On n'est pas très objectif.
Non, mais ils sont très bons.
Ah, mais je trouve qu'ils ont une capacité à toucher des thèmes de la vie, etc., qui est tout en nous faisant danser et en même temps en faisant réfléchir. Quelque chose de très intéressant dans l'électro, je trouve, qui se passe depuis quelques années.
Tout à fait.
Eh bien, c'est Fab qui prend la suite et pour nous vanter. Non, je déconne. Pour nous parler spiritualité et science.
Ouais, j'avais envie ce soir de revenir sur ces deux notions.
De faire une grande prière collective.
Voilà, tous ensemble.
Enfin alors,
vous allez fermer les yeux. Vous écoutez le son de ma voix. Non, je vais d'abord commencer ce sujet donc, par deux définitions. Donc d'abord, la spiritualité, comment elle est définie. Je suis allé chercher ça sur l'académie. Hein, je
sais pas, ouais, dictionnaire, quoi.
Dictionnaire, hein. Donc la spiritualité, c'est le caractère de ce qui est spirituel, indépendant de la matière, ou en religion, c'est la croyance et les pratiques qui concernent la vie de l'âme, la vie spirituelle. Voilà. Ensuite, on a la notion de science, avec un S à science, parce qu'on dit rarement la science, mais les sciences, contrairement à ce que disent souvent les religieux. Les sciences, c'est un ensemble de connaissances, de travaux d'une valeur universelle, ayant pour objet l'étude de faits et de relations vérifiables selon des méthodes déterminées, comme l'observation, l'expérience ou les hypothèses et la déduction. D'accord ? Voilà.
Ouais. T'as fini pour les deux définitions ?
Oui.
En fait, je rebondis un tout petit peu, c'est parce que c'est un débat que j'ai pu avoir régulièrement sur les gens qui rattachent la spiritualité à la pensée, à la philosophie.
Ça, c'est la philosophie, là.
Ben justement, en fait, c'est ce que je me dis. Je me dis, pour se détacher, en fait, de tout cet accoquinement, ce rapprochement avec la religiosité, parce que pour moi, la spiritualité, il y a quelque chose de... En fait, on pourrait juste dire la pensée, la philosophie.
Ouais, tout à
fait. Enfin, voilà, un truc comme ça, en fait, sans se rattacher à un mot qui, quand même, est très, très teinté de religiosité.
Ah, mais parce que, par définition, il l'est. D'ailleurs, je le dis, hein, donc d'un côté, on a quelque chose qui relève du subjectif et de vision très personnelle. Et de l'autre, on a des faits, des preuves et une capacité de remise en question. Oui, parce que quand on parle d'expérience, ça veut dire qu'une expérience peut invalider une autre expérience. Vous voyez, c'est le principe. Ou quand on parle d'hypothèse, ça veut dire qu'on n'est pas sûr. On a l'hypothèse que ça peut être, jusqu'à ce qu'on arrive à définir si cette hypothèse est vraie ou pas. Donc en fait, on est d'un côté dans un domaine du doute, c'est celui des sciences, et de l'autre, dans un domaine de l'absolu, c'est celui de la spiritualité. Oui, ça fait bizarre quand on le présente comme ça, mais en fait, c'est vraiment comme ça que ça marche. Donc, c'est deux notions, finalement, qui sont contraires, en réalité, et qui ne sont pas compatibles. Voilà. Et là, je pense que vous vous dites, bon, on le sait, que la causerie, elle n'aime pas les superstitions et les religions, donc pourquoi il nous parle de cela? Eh bien, tout simplement, parce que je me suis intéressé à un fait. Pourquoi les humains tombe dans la spiritualité et la religion si facilement, et pas dans les sciences qui apportent quand même des réponses un peu plus sensées à mes yeux. Et ben du coup, je me suis demandé s'il y avait des scientifiques qui s'étaient penchés dessus. Bah ouais, parce que voilà. Et figurez-vous que oui, et qu'en plus, les conclusions qu'ils tirent sont assez étonnantes. Alors, je me suis dit, autant qu'on les partage tous ensemble, non ?
T'as bien raison.
C'est plutôt cool. Alors, il y a une chose qui vous ne savez peut-être pas, mais c'est que notre cerveau, c'est un gros feignasse. Et il serait un peu facile de se dire que si les humains entretiennent des illusions religieuses et superstitieuses depuis des millénaires, parce que c'est pas d'aujourd'hui, ce serait juste parce qu'ils sont bêtes. Ce serait, en plus, pour un athée comme moi, prendre une position très pédante et supérieure. Non, en fait, il y a une raison. Il y a autre chose derrière. Et en fait, ce sont des études de neurosciences menées en Israël, en France et aux USA qui nous donnent la réponse. Et en fait, la réponse, elle est étonnante. Nous croyons parce que nos cerveaux est donc de base une grosse feignasse. Bah ouais. Alors je m'explique. Non, parce que là j'entends déjà des gens qui disent oui, comment tu peux dire ça? Alors le
comment tu peux dire ça?
Bah oui, non, parce que le cerveau, vous le savez, il gère déjà en sous-tâche tout votre corps. Ah ouais. Hein.
Oui, il chôme pas, je dirais.
Ah, il chôme pas. Hein. Non, mais
enfin, ça ne veut pas dire non plus que les chômeurs sont des feignasses.
C'est
attention,
pas sûr.
C'est pas ce que je dis non plus.
Tu passes sur une pente glissante.
Oui,
donc le cerveau, hein, donc il gère tout en sous-tâche dans notre corps. Hein. Il fait battre le cœur, gonfler, dégonfler les poumons. Il gère les réflexes, la marche, la vue, l'ouïe, les sensations, le goût, l'odorat, enfin tout. Et sans que vous ayez à y penser, c'est tout en automatique. Hein. Donc et tout ça, en fait, sans rien nous demander. Il fait ça, cool. C'est pour ça, par exemple, que d'un seul coup, quand on fait, oh, ça sent la fumée, votre cerveau, il dit fumer égale feu, vérifie qu'il n'y a pas le feu chez toi. Ouais, c'est tac, tac, tac. Mais ça, vous n'êtes pas conscient. C'est sous tâche. Donc, c'est immédiat et donc sans que nous ayons à y penser. Bah, d'ailleurs, tant mieux, parce que s'il fallait qu'on pense à respirer à chaque fois, ce serait chiant. Voilà. Et d'ailleurs, on le voit, hein, parce que les gens qui ont besoin de gérer leur respiration, ils apprennent à le faire. Mmh. C'est-à-dire que de rendre conscient la respiration, les gens qui font de l'apnée, par exemple, ça nécessite beaucoup d'entraînement. Parce qu'en fait, vous êtes en train de contrarier votre cerveau. En train de lui dire, c'est moi qui reprends la main
oui,
sur la
ça,
respiration.
C'est une conscientisation d'un fait qui normalement
ne doit pas l'être. Voilà. Sauf que tout cela, ça demande déjà une sacrée énergie, toute cette sous-tâche. Et on ne s'en rend pas compte, mais je vous rappelle que le cerveau mange chaque jour 20% de votre énergie, à peu près. 20-25% de votre énergie. Oui, ce petit truc d'un kilo et quelques que vous avez dans le.
C'est ce que j'allais dire, il vous présente combien par rapport à toute la.
Ah, mais il fait 1,2 kg, 1,3 kg à peu près. Et
ouais,
vous
donc
voyez
il ne représente vraiment pas grand-chose.
Du coup, quand un phénomène qu'il ne comprend pas arrive, le cerveau a une tendance à en faire en fait le minimum. C'est là qu'il devient un peu une feignasse, hein, et à trouver la solution la plus simple. Alors, vous avez une tuile dans la vie, c'est le karma. Voilà. Vous avez un décès, c'est Dieu qui vous met à l'épreuve. Vous ne comprenez pas les éclairs, vous savez ce qui est blanc dans le ciel, c'est de la magie. Vous êtes irascible, c'est sans doute que vous êtes sagittaire. L'autre vous trompe, ça c'est parce que vous êtes gémeaux. Non, c'est parce qu'il est gémeaux. Vous voyez, en fait, on cherche des réponses rapides. Et en fait, c'est pas que ces explications sont vraies. C'est juste qu'elles sont rapides et qu'elles ne demandent pas d'effort. Et en fait, votre cerveau qui est déjà en train de gérer toute la sous-tâche, il se dit « Ouh, bah attends, bouge pas, j'ai une réponse rapide, je vais prendre la réponse rapide, c'est plus simple que de me poser des questions. » Parce que si je me pose des questions, il va falloir que j'augmente un petit peu mon volume de bouffe, là, parce qu'il va falloir que je me mette à réfléchir. Pff, c'est chiant, j'ai déjà toute la sous-tâche à faire. Voilà, c'est pas, ça paraît bête, mais c'est exactement ce que les études ont démontré. Car c'est aussi, en fait, ce que les études finissent par démontrer de façon claire. Réfléchir, penser, remettre en question, ça demande des efforts. Et ça relève en fait de la partie consciente du cerveau et de choix. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne commencez à penser que quand vous n'êtes plus dans le réflexe. Vous commencez à penser quand vous interrogez quelque chose.
Oui, c'est ça, quand tu décides que maintenant...
Maintenant, j'y pense. Oui. Voilà. Et là, en fait, vous activez votre cerveau sur la partie mon coco, tu vas sortir de ton rôle de juste chef de chantier du corps. Tu vois. Alors, tu vas devenir philosophe. Un peu plus compliqué. En gros, plus vous voulez comprendre la vie, et moins, vous laissez la partie automatique trouver une solution facile. Donc, vous contrez votre propre cerveau. C'est ce que les neuroscientifiques ont découvert. Et c'est fascinant. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous allez avoir une première explication qui va venir, et instinctivement, vous auriez envie de l'apprendre, cette première explication, mais consciemment, vous allez dire, eh non, c'est pas un fantôme. C'est bête, hein. Vous êtes dans une maison, il y a un bruit. Bon, l'explication rapide, selon ce que vous avez comme environnement, les films que vous avez vus, ça va être, il y a un fantôme, voilà.
Ouais, et, comme bagage, en fait.
Voilà, et parce que c'est rapide et que votre cerveau, il n'a pas envie de penser à ça. Et puis, si d'un coup, vous dites, non, mais c'est quoi qui a pu tomber? Vous voyez? D'un coup, vous réfléchissez et vous dites, ah non, c'est pas un fantôme.
Mais on résonne,
voilà,
en fait.
On résonne. Et là, votre cerveau n'est pas content parce que lui préférait dormir. Enfin, faire la sous-tâche, parce que le reste, c'est fatigant. Autrement dit, plus vous philosophez, donc plus vous interrogez sur la vie, ce dont tu parlais tout à l'heure Jean-Yves, et plus vous cherchez à comprendre, donc en utilisant les sciences au pluriel, c'est-à-dire l'hypothèse, la démonstration, tout ça, et moins vous vous laissez aller à la facilité, donc à la spiritualité. Voilà, je pense que je ne me suis pas fait des amis, mais en tout cas voilà. Mais ça c'est, et selon les scientifiques, en fait c'est la raison première qui fait qu'au final, on a tendance à préférer la spiritualité à la connaissance, c'est plus facile et c'est moins fatigant. Ouais. Et donc en fait, ça demande pas d'effort.
Ouais, mais je trouve ça hyper intéressant en fait.
Ben oui.
Mais vraiment, mais c'est chaud que c'est. Alors, parce qu'on, justement, en plus, on vient emmener des sciences sur quelque chose qui. Enfin, vraiment, je trouve ça. Pardon, j'ai pas les mots, mais je trouve ça hyper intéressant.
Oui, parce que en fait, l'idée des scientifiques. Alors, j'ai lu en particulier celle qui a été faite aux USA et pas celle qui a été faite en France parce qu'elle était payante et que j'avais pas les moyens. Voilà, je vous le dis franchement, parce que les revues à relecture, c'est un
c'est
peu cher.
Cher.
Donc, les USA, ils l'ont mis en ligne gratos et c'était cool. Et donc, du coup, en fait, j'ai pu le lire et c'est très intéressant parce que la première question qu'ils se sont posée, c'est pourquoi croyons-nous? C'est-à-dire, en neurosciences, c'est intéressant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on croit? Parce que la croyance, je vous le rappelle, c'est une certitude de quelque chose qui est souvent faux. C'est une croyance, c'est-à-dire que c'est, pour vous c'est vrai, sauf que souvent vous n'arrivez pas à le démontrer.
Genre, ah oui, il n'y a aucune démonstration de fait.
Un enfant qui croit au Père Noël, vous dites pourquoi tu crois au Père Noël? Il dit parce que le Père Noël existe.
Mais il n'aura aucune preuve à avancer sur la réalité du Père Noël.
Et on ne se moque pas des enfants, parce que si vous allez voir un croyant, vous lui dites pourquoi tu crois en Dieu, il dit parce que Dieu existe, hein, donc c'est à peu près du même niveau. Mais c'est juste, on voit que la croyance, ça ne repose pas sur grand-chose, mais c'est facile. Voilà. Et donc la première question qu'ils se sont posées, c'était ça. Et en déroulant, ils se sont rendus compte qu'effectivement, c'était lié à la façon dont notre cerveau fonctionne. Et que notre cerveau, il a plutôt, donc comme je le disais, tendance à dire « Eh ben écoute, moi j'aimerais vraiment quand même que tu me foutes la paix parce que j'ai la respiration à faire et que j'ai un peu de choses à foutre que de penser. » Voilà. Donc alors comment on peut booster l'envie d'apprendre? Parce que c'est ça qui va être intéressant. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui fait qu'on booste l'envie d'apprendre? Alors je vais faire une première, je l'ai pas noté, mais je l'ai oublié de la noter. Par exemple, pourquoi l'être humain a appris à l'époque préhistorique? Voilà, et ça je l'ai lu, c'est hyper intéressant. C'est un paléontologue qui a écrit ça. Et ben il explique tout simplement parce qu'on était confronté à plein de choses qui nous faisaient peur, et qu'au bout d'un moment, si on s'était arrêté qu'à nos peurs, on serait plus là. Et que c'est parce qu'il fallait qu'on survive qu'en fait on a commencé à apprendre. On a commencé à se dire, bon alors, il y a un truc blanc qui tombe du ciel, quand ça touche le sol, des fois ça fait du feu, ça doit être les dieux. Bon, ça c'était la première explication, puis après petit à petit, des années plus tard, des siècles plus tard, on s'est dit c'est une éclair. Et c'est le truc, on a donné des noms, on a commencé à voir que c'était des phénomènes naturels, des choses comme ça. Un éclair. Oui, parce que j'ai vu Clara qui fait... Mais oui, c'est la raison, c'est un éclair.
Ça m'a fait bizarre aussi.
Tiens. Pardon.
Donc, voilà. On parle pâtisserie aujourd'hui.
au chocolat. Et donc voilà, donc du coup, voilà. Donc, ça c'était le premier exemple. Et donc, quand on est confronté en fait à des choses qui nous obligent à penser, on a tendance à activer la partie consciente de notre cerveau pour essayer de penser. Parce que pour échapper à, par exemple, à un prédateur qui nous poursuit, c'est bien l'instinct de survie. C'est mieux après de réfléchir à comment je peux faire une barrière pour éviter que le prédateur y revienne, plutôt que de courir à chaque fois. Vous voyez, c'est un exemple. Voilà. Et comme le soulignent les trois études, le monde étant de plus en plus basé aujourd'hui sur le paraître plutôt que sur l'être, et ben la spiritualité est mise à toutes les sauces. Alors je reviens au présent, hein, je suis plutôt pas loin. Le développement personnel, tantra magique sur les réseaux sociaux, retour du religieux, tout suit une logique certes glaçante mais finalement réelle et finalement explicable. Parce que le paraître, c'est facile. Bah oui, voilà.
Et puis c'est des solutions faciles.
Ah oui, mais c'est ça.
Dire que c'est parce qu'il faut croire en Dieu, etc. En fait, ça te pousse à ne pas te dire, faut peut-être changer la société et le monde, en fait. Et que plein de trucs sont comme ça, en fait. C'est-à-dire que dès que tu fais du développement personnel, c'est plus le travail le problème. C'est moi.
Bah oui, c'est ça, c'est moi. C'est-à-dire que ça vous renvoie à vous-même. Et donc,
c'est la culpabilisation à outrance et c'est très religieux.
Et votre cerveau, n'ayant pas forcément envie de réfléchir, il se dit, ouais, c'est forcément toi. C'est toi. Ouais. Bah, c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous dit, mais attends, Sylvain, les miens sortent ta zone de confort. Je reviendrai sur
ça. Attends, on n'a pas compris ce que tu viens de dire.
Ah, c'est parce que j'ai essayé de faire le gars qui est en vidéo là. Qui dit,
ouais, mais tu...
Je vais essayer de ne pas le faire. Qui dit, mais si vous voulez aller mieux, sortez de votre zone de confort.
Ouais,
la zone de confort. Alors, un jour, je reviendrai sur la notion de zone de confort et vous verrez que c'est pas si simple que ça et que c'est une belle saloperie de parler comme ça. Et alors, je continue. Et c'est là que se pose la question de comment donner l'envie d'apprendre. Parce que c'est ça qui est important. Eh bien, figurez-vous que selon les chercheurs, cela passe avant tout par l'exemple. Et voilà. Plus vous parlez des choses que vous savez ou qui vous intéressent, plus vous donnez envie à d'autres de se pencher dessus. En particulier quand vous le faites avec des enfants. Et oui, parce que si vous parlez jamais de ce qui vous intéresse et que vous restez que sur du small talk, comme on dit, du petit dialogue entre trucs, genre
ça va, il fait beau, merci.
Il fait beau, merci. Oh bah oui, oh là là, il fait chaud. En fait, vous ne rentrez pas dans une zone où le cerveau a besoin de s'allumer. Oui, parce que voilà. Donc du coup, il faut parler de choses intéressantes. Et cela passe aussi par le fait d'accepter la contradiction, parce que qui dit science dit aussi le fait de pouvoir être remis en question. Donc il faut accepter que des gens ne soient pas d'accord avec vous. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut s'engueuler, mais des fois si, ça dépend des sujets. Mais voilà, c'est peut-être étonnant pour beaucoup, hein, dans une société où on tend vers le « tout se vaut hein ». Mais justement, selon les études menées, c'est le fait d'être confronté à une idée contraire qui pousse à apprendre, et certainement le fait d'être enfermé dans une bulle de certitude qui va nous pousser à ne pas le faire. Vous voyez, c'est ça le truc, en fait. C'est-à-dire que, aujourd'hui, quand on dit tout se vaut, on dit on n'a pas le droit d'interroger les choses. Enfin, si, parce que pour apprendre, pour comprendre, il faut interroger. Il faut aller buter sur des trucs en disant, je suis pas d'accord. Je vous donne un exemple très concret. Les platistes. ceux qui croient que la Terre est plate. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent c'est pas grave de croire que la Terre est plate. Bah en fait, si, parce que ces gens, ils vont avoir des enfants et ils vont dire à leurs enfants que la Terre est plate et ainsi de suite. Vous voyez, et c'est comme ça qu'en fait on propage une idée fausse. Voilà. Et ben c'est bien de pouvoir confronter, de dire mais non, moi je pense que la Terre est ronde. Et puis ben si mais non, moi elle est plate. Ben après, ben c'est on arrive à l'étape d'après. C'est prouve-le-moi. Comment tu peux affirmer qu'elle est plate? Et lui, il va te dire, bah, comment tu peux m'affirmer qu'elle est ronde? Bah, toi, vous allez réfléchir.
Oui, c'est allier pensée et matérialité.
C'est ça.
En fait.
Et en fait, ça permet comme ça de confronter ses idées, d'augmenter, en fait, ses capacités cognitives et donc d'obliger votre cerveau à faire autre chose que les sous-tâches. Voilà. Il souligne d'ailleurs les chercheurs aussi qu'il faut dévier les peurs. Ça paraît bizarre, ça, mais voilà. Par exemple, ils expliquent que certes, on apprend moins en restant devant les écrans qu'en lisant. Ça, c'est un fait. On sait que lire, ça permet mieux d'acquérir que de regarder. Mais comme il le souligne, et comme le souligne d'ailleurs spécifiquement l'étude israélienne qui s'est penchée là-dessus, on apprend quand même plus devant des programmes de réflexion que devant de la télé-réalité. Alors, ça paraît être une évidence hein, quand je dis ça, mais sauf qu'en fait, c'est concret. C'est-à-dire ce que vous regardez ou ce que vous faites regarder à vos enfants, ça a aussi un sens dans ce que vous avez envie de faire. Vous allez plus apprendre en regardant un débat type l'émission C'est ce soir ou des choses comme ça qui existent sur France 5 ou autre que si vous regardez les Marseillais à Mykonos. Mais vous avez le droit de regarder les deux aussi. Vous voyez, c'est ça. Mais dévier les peurs, c'est aussi de se dire j'ai aussi le droit d'aller regarder quelque chose d'intellectuel, même si je pense que je suis trop bête. Ben non, en fait, on n'est jamais trop bête. Il faut dévier cette peur-là. Il faut se dire bah tant pis, je comprends peut-être pas tout cette fois-ci, mais au bout d'un moment. Vous allez commencer à comprendre. Et puis votre cerveau, il va commencer à se connecter. Vous voyez, c'est ça le truc qui est bien.
Mais, pardon, mais parce qu'en même temps, je me dis, enfin, résonance aussi personnelle là-dedans, mais en fait, c'est la curiosité enfantine, enfin, je trouve qu'à quelque part, c'est une démonstration, en fait, d'une certaine forme de matérialité. C'est-à-dire que, on s'interroge, l'enfant s'interroge. Et en fait, soit il continuera d'investir, je ne sais pas si on peut dire ça, mais sa curiosité, ses questionnements, sauf si l'adulte en face lui dit bah, c'est comme ça, il n'y a rien à trouver, il n'y a rien
mais
à démontrer.
C'est ça, qu'il faut, alors, il faut avoir le goût d'apprendre.
C'est quelque chose qui, oui, mais c'est quelque chose qui peut être, enfin, d'une certaine manière, je pense que c'est assez. Alors, je ne sais pas si ce n'est pas le bon terme, mais c'est assez naturel en fait, chez l'individu enfant. Parce que finalement, il a la découverte du monde qui l'entoure. En fait. Et ce qui va le cloisonner, c'est l'adulte qui lui est déjà un adulte
dans
cloisonné,
ses certitudes.
Dans ses certitudes, qui va dire à l'enfant, non mais t'interroges pas. Parce que en fait, si l'enfant s'interroge, bah, il oblige l'adulte à s'interroger et à essayer d'apporter des réponses matérielles. Et en fait, c'est vraiment un truc où ouais, l'éducation, mais encore une fois, c'est pas un vilain mot. Hein. C'est la transmission, c'est l'échange, etc. C'est une, enfin, ouais, de toute façon, je pense que c'est une des clés absolues de comment dire,
bah,
d'une modification
clé,
positive de ce qui peut arriver à l'humanité.
On
quoi.
Est bien d'accord. Et je vais même dire que je fais juste ça. C'est pour ça aussi que ces chercheurs critiquent beaucoup dans l'étude notamment américaine l'école à la maison. Parce qu'en fait, ils disent que ça limite les interactions de l'enfant, et qu'on le veuille ou non, et qu'en fait, alors ils disent pas que les parents qui font ça sont des mauvais parents, c'est parce qu'ils écrivent. Non, parce que j'ai vu, il y avait une critique de gens qui disaient, hein, c'est pas ce qu'ils disent. En fait, ils disent juste que plus on a d'interactions, et plus, en fait, on est soumis à devoir réfléchir à
ces interactions. Oui, c'est une gymnastique intellectuelle
c'est
qui
ça.
Se met en place, en fait.
Exactement. Et donc, du coup, bah, c'est ce qu'ils disent, hein, c'est que sans condamner pour autant le divertissement, tout ça, parce qu'ils disent c'est très bien, mais il faut aussi faire d'autres choses, parce qu'ils soulignent que ce qui est important, c'est la diversité qui fait la curiosité. Et en fait, la curiosité fait l'accès en fait au matériel, à comment ça marche, parce que c'est comme ça qu'il faut être curieux. C'est voilà. Donc c'est donc bien en fait finalement l'environnement qui va permettre l'ouverture et la curiosité. Et je ne dirais pas que c'est d'ailleurs aussi simple pour une personne riche que pour une personne pauvre, par exemple, parce qu'on sait que là aussi, il va falloir qu'on compense à un moment donné l'accès à la culture. C'est quelque chose de tout bête, hein, mais moi quand je vois Laurent Wauquiez par exemple qui enlève des subventions et qui du coup fait qu'il y a plein d'enfants qui vont plus pouvoir faire certaines choses comme l'accès à la musique, à l'auditorium ou des choses comme ça, et ben en fait ils privent les plus pauvres, parce que c'est les plus pauvres hein, qui sont privés systématiquement, d'un accès à la curiosité. Et ça c'est en fait on rend un peu bête les gens volontairement. Ça démontre et ça explique bien pourquoi les plus riches rêvent d'un monde sans culture pour les plus pauvres. Bah oui, et les laissant en fait dans les croyances, parce que la croyance ça facilite l'exploitation. Ça, c'est aussi un des aspects qui est souligné dans l'étude américaine. Voilà, donc. Et pour finir, hein, je dirais une chose. Ce n'est pas parce que notre cerveau est feignant qu'on doit l'être aussi. Voilà. Et encore une fois, vous aurez compris que la notion de feignant était une blagounette. Hein. La curiosité n'est pas un vilain péché, hein, mais bien la clé pour comprendre le monde et garantir et le garantir, se garantir intellectuellement de le comprendre. Voilà. Et oui, alors, si les religions condamnent la curiosité, c'est pas pour rien, hein. Parce que si vous allez lire les livres saints, vous vous rendez compte que c'est complètement idiot. Donc, ne les lisez pas, croyez que le monsieur qui est sur la chair. S'il convient de ne pas avoir un regard condescendant sur celles et ceux qui croient, parce que, voilà, il nous faut quand même les confronter aux limites de leurs croyances. Pour démêler tout ça.
Et rassurez-vous, en fait, finalement, le matérialiste qui va être face à des croyants va aussi devoir s'interroger, ou en tout cas devoir
amener
pourquoi il ne croit pas, et d'amener de l'argumentaire.
Donc, exactement.
C'est pas juste un truc contre les croyants.
Ah non, non, c'est une gymnastique de l'esprit.
C'est ça.
Alors, disons-le. Dieu n'existe pas, l'astrologie c'est faux, et la magie c'est explicable par la science. Bon, au début, je voulais vous laisser là-dessus, mais Jean-Yves m'a dit, c'est un peu sec. Alors, je vais donc rappeler que là, j'étais juste un petit peu taquin. Mais voilà, mais restez curieux, soyez curieux de plein de choses. Il y a plein de revues, de choses comme ça qui existent. Il y a plein même d'émissions de radio, d'émissions de télé, tout ça qui existe aujourd'hui, de podcasts, de youtubeurs, machin. Intéressez-vous, soyez curieux et vraiment, vous verrez que ça va mieux.
Oui, mais, non, mais, oui, mais ça, alors ça, en même temps, c'est quelque chose qui est très difficile à saisir quand on ne grandit pas dans un environnement qui éveille et qui entretient cette curiosité.
Ça, je suis d'accord.
Pour avoir pu grandir dans un environnement plutôt, on va dire, religieux, on peut dire ça, avec justement, tu vois, par exemple, la curiosité est un vilain défaut, etc. En fait, on va contre même l'instinct presque, j'ai envie de dire, humain, c'est-à-dire que, ce que je disais avant, c'est-à-dire l'individu enfant, il va vouloir savoir ce qu'il y a derrière la petite montagne, là, en fait, ou derrière la petite colline, ou dans la rue suivante. Et qu'en fait, je me dis, non, ne regarde, n'écoute pas, ne cherche pas à comprendre, ben, en fait, on tue.
On est bien d'accord.
L'essence même, en fait, je pense, des humains qui sont, je pense quand même, d'une certaine manière, il y a une curiosité chez l'humain.
Oui,
même si après, ça a sûrement un combat interne entre cette soif de curiosité et ce cerveau qui se dit, oh, j'en fais déjà assez.
Non, parce que ce que j'ai peut-être oublié de préciser, c'est qu'il y a toujours un moment où on s'interroge, notamment juste avant qu'on s'endorme. Ça paraît bizarre, mais c'est le moment, en fait, où le cerveau, vous savez, vous vous asseyez ou vous vous couchez, vous êtes un peu au calme, et d'un coup, votre cerveau, il vous dit, tiens, mais au fait, pourquoi Neptune est bleu? Alors, vous savez pas pourquoi les pieds bleus sur le coup, et vous allez chercher.
Des fois, c'est sur des questions plus terre à terre.
Oui, oui, non, mais tout à fait. Non, mais je donnais des exemples comme ça un peu au hasard. Mais ça peut être. Alors, pour revenir par exemple à mon histoire de préhistorique, c'est ce qu'il disait le paléontologue. Il dit, il y a sûrement un jour quelqu'un qui s'est assis à côté du feu et qui s'est dit, et si je mettais une barrière? Oui, c'est le truc, voilà. Et après, il s'est dit, et comment je construis ma barrière? Parce que c'est ça après derrière. Et en fait, ça vient petit à petit, mais s'il faut pas s'en priver. Et là où je te rejoins sur les environnements, c'est que normalement, théoriquement, l'école est censée compenser ça. Sauf qu'aujourd'hui, l'école est devenue en fait une boîte à réussir pour l'industrie, en gros, enfin pour les métiers. Donc dès l'enfance, on commence à orienter les gamins non pas sur la curiosité, sur le fait d'apprendre des choses, mais sur le fait en fait d'être optimal pour pouvoir avoir un futur métier.
Il faut ces bagages-là pour
voilà. Ce qui donc fait que l'école n'est plus un moyen de tout le périscolaire n'a plus aucun copec, plus aucun argent pour faire aussi des choses qui pourraient être intéressantes comme de l'art, comme aller dans des musées.
Oui,
mais voilà, l'éducation populaire est complètement sinistrée de partout. Et donc, en fait, on est en train d'enfermer petit à petit, notamment les plus pauvres, parce qu'il faut être très clair, dans, en fait, du vide qu'on comble par la télévision ou par Internet. Et en fait, le problème, c'est, et encore une fois, il y a des très bonnes choses à la télé, il y a des très bonnes choses sur Internet, mais il va falloir qu'on donne l'envie d'aller voir ces choses-là, de rendre les gamins et les adultes, hein, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre, hein, je vous le rappelle, curieux d'aller se confronter à des choses peut-être parfois qui paraissent un petit peu complexes, mais qui finalement, au bout d'un moment, on finit par comprendre, quoi. Voilà.
Yes. Et ben on passe à la musique.
Ouais, moi, allons nous balader.
things I'm talking about there, yeah, yeah. Try what you not do if you're not a fear, fear. One man did they tell me to disappear, yeah, yeah. So so come and help me, cause I don't pray. My man, I don't pray. Come on, man, I can't stay for one place. For God's sake, my day. Don't take my fear away from you. Talking shit, shimmy. What the no got in me? Do you fall forward, shimmy? I put up out of my eyes, then shut my eyes. Touch God, I cry, offshore, but my pillow. Give me, I don't pray, Mohammed, I don't pray, commandment. I can't stand for one place, for God's sake, my pain. Come on, teach me.
Causerie au 102.2 sur radiocanu.org. Et donc, du coup, on vient d'écouter Soso de Oma Lei. Voilà. Alors, ça s'écrit O-M-A-H et plus loin, Lei, L-I-Y. Il est nigérian. C'est un producteur de musique. Il fait des folies douces avec ses. Enfin, il est. Voilà. Chaque titre, il met des mois à le sortir. Et il existe une version uniquement chantée avec que les sons que vous entendez derrière. Oui, où il n'y a pas son rap. Et je vous la conseille aussi. C'est très, très beau. Voilà.
Ok. Et ben on passe au bref pour la semaine à venir.
Oui.
Et il y a quelques rendez-vous. Et le premier rendez-vous, c'est mardi 6 juin. Vous le savez peut-être, mais c'est une manif qui est organisée par l'intersyndicale qui tient depuis le début, même si on peut regretter que là, il s'est passé au moins un mois, je crois, depuis la dernière. Mmh. Donc c'est mardi 6 juin. Rendez-vous manufacture des tabacs à partir de 11h pour arriver à tes souhaits.
Pardon.
À tes souhaits.
Pardon, désolé.
Pour arriver à Bellecour, donc mardi 6 juin à Lyon. Et évidemment, autour de vous, regardez, Villefranche, il doit y en avoir une aussi, etc.
16h30, place du Promenoir.
Voilà. Et ensuite, le rendez-vous suivant, c'est.
Le 10 juin. Et oui, samedi. Parce que c'est la marche des fiertés à Cap Pride. Et donc, du coup, voilà, bah, c'est, vous savez, chaque année, c'est le mois des fiertés au mois de juin, autour des LGBTQIA+. Et donc, du coup, là, c'est la marche des fiertés. Et elle démarre le 10 juin de la manufacture des tabacs à 14h. Et s'il fait chaud, prenez de l'eau, parce que ça tape en ce moment, hein, à Lyon.
Et l'arrivée, c'est
le lycée du parc. Alors, je sais plus trop, c'est le lycée du parc ou le parc de la Tête d'Or, mais il y a une arrivée quelque part.
J'ai cru dire.
Ouais, mais parce qu'après, il y a des trucs qui se passent dans le parc de la Tête d'Or. Donc, oui, quand on arrive au lycée du parc, ça permet de rentrer dans le parc. Donc, voilà. Et du coup, juste rappeler aussi que c'est la quinzaine des fiertés, mais qui fait 18 jours sur Lyon. Donc elle a démarré le 1er et elle se terminera le 19. Donc du coup, il y a plein de choses et pour voir le programme, il faut aller sur fierté.net ou le CFL, collectif Fierté en lutte Lyon. Voilà, et vous avez le programme de tout ce qui se passe. Il y a plein de trucs cette année et c'est bien parce que les fachos reviennent et quand ils reviennent, généralement, ils nous tapent sur la gueule. Et je vais juste faire une parenthèse, j'ai une pensée pour le centre LGBTI de Tours,
oui,
qui a été attaqué à la bombe, hein, quand même. Voilà, ça s'appelle comme ça, une bombe. Alors certes, c'est une bombe sonore, dit le jeune homme de 17 ans qui a été arrêté. Bon, ben, c'est une bombe quand même. Et le monsieur, il est catholique intégriste et il a acheté une bombe sur un centre LGBTI parce qu'il en avait très 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 marre de la théorie du genre, qui n'existe pas, rappelons-le. Mais voilà, mais donc du coup, on voit que ça sent pas très bon en ce moment. Donc il faut mieux être unis, marcher et envoyé chez tous.
Ouais, et puis il y avait aussi le centre LGBT, je crois que c'était à Saint-Denis,
ouais, la Réunion,
à La Réunion, ouais, qui avait été incendié il y a quelques mois. Donc voilà, hein, les fascistes, les réactionnaires ne sont pas spécifiques à Lyon.
Non, non,
ils sont partout. Voilà. Ils sont partout. Et nous allons les faire reculer. Hein. Voilà. Il n'y a pas le choix, je crois. Sinon, c'est nous qui allons y rester. Donc,
et quel meilleur moyen que d'aller marcher tous ensemble dans la joie et la bonne humeur.
C'est ça. Et le rendez-vous suivant, et ben c'est, bah, si vous n'êtes pas trop crevé de vos activités de la semaine, il y a le dimanche, un dimanche solidaire, c'est la 11e édition, qui a lieu en soutien aux mineurs isolés de Lyon, qu'on avait déjà pu recevoir, ouais, dans la causerie, qui en fait se retrouve, enfin c'est un événement en soutien pour amener de l'argent, tout ça, connaître aussi la cause. Ça aura lieu donc dimanche le 11. Ça se passera à l'amphithéâtre des Trois Gaules, c'est dans le premier arrondissement. Ça commence à 10h, je crois qu'il y a une pièce pour les tout petits de théâtre. Ensuite, il y a de la boxe, il y a de la musique, il y a de la sérigraphie, enfin, il y a plein d'activités. Donc de 10h à 20h30 à l'amphithéâtre des Trois Gaules. Des Trois Gaules, oui, c'est ça, à Lyon 1er, en soutien aux mineurs isolés. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Mmh. Nous, on se retrouve dimanche prochain.
Oui.
22h, 23h.
Oui.
Et on n'oublie pas non plus aujourd'hui, pardon, mais je vite fait quand même, on est le 4 juin. Et un certain 4 juin, il s'est passé des choses assez horribles en Chine. Ça s'appelait
Tiananmen. 1989.
Alors, ne comptons pas sur le pouvoir chinois et ses alliés pour nous en parler.
Il ne s'est jamais rien passé.
C'est ça, mais nous, on n'oublie pas. Et c'est, voilà, encore une fois, c'est ce qui se passe à l'autre coin du monde. Est aussi notre affaire et doit aussi nous toucher et on doit s'en souvenir.
Vu que tu parles d'international, ouais, c'est aussi l'occasion ici de parler du Soudan, parce,
oui,
que voilà, on l'a pas fait, et juste apporter quand même notre soutien à ceux et celles qui résistent au Soudan, malgré la guerre que se mènent deux chefs militaires qui ont déjà fait beaucoup de morts, qui a malheureusement fait déjà beaucoup de morts, et voilà, et là aussi on voit une petite guerre déportée avec l'ombre de la Russie et l'ombre des États-Unis d'un côté, voilà, donc, et ça aussi c'est des choses
et
qui plein de pays
géants,
ouais, les coalitions, hein, voilà, et voilà, donc du coup, pensez quand même pour ceux qui continuent à rêver à la révolution au Soudan.
C'est ça.
Voilà.
Et vu que c'est la quinzaine des fiertés, n'oublions pas l'Ouganda où l'homosexualité est criminalisée encore plus qu'avant. Et que voilà, il est illégal d'être homosexuel, lesbienne, trans, PD, tout ce que vous voudrez, en tout cas pas hétéro dans certains pays. Et ça aussi, on l'oublie pas.
Clairement.
Et on pense à celles et ceux qui ont payé le prix de leur vie. Et ben on va se quitter en musique. C'est qui annonce ? C'est Kiki ! C'est qui annonce ? Ah, oh là, il y a un petit mouvement là technique avec un sourire qui veut dire mais va te faire voir, j'annonce rien.
C'est bien.
Ouais, je comprends le langage non verbal.
Et ben justement, comme c'est le mois des fiertés partout dans le monde et pour les fiertés LGBTQIA+, il y a un groupe qui s'appelle Lord of the Lost, qui est un groupe de métal qui a sorti une chanson qui est Know It You Lover et qui est une chanson, un hymne en fait, à dire que l'amour c'est l'amour et que si t'es pas content, c'est pareil, voilà, mais c'est bien que des groupes de métal s'y mettent aussi, parce qu'il y avait beaucoup de groupes d'électro, de techno, tout ça, et ça change, et c'est un très beau titre. Donc voilà. Donc
bientôt vous... peut-être un titre de Booba et Caris pour nous chanter l'amour LGBT, mais c'est pas tout de suite.
Donc ça c'est quand ils feront leur coming out.
Et là tu annonces le titre, pardon, j'ai vu que j'ai fait l'idiot.
C'est Know It You Lover et yes, c'est The Lord of the Lost.
Yes, et ben on vous donne rendez-vous dimanche prochain, des bises, bon courage, ciao.
Ciao. Allez.
See the light of the day, but this place was not your choice. You grow up, hope for the best, but clearly you can't have a voice. They shut you up, they keep you down, and say you never should have. No.
untouchable, beautiful, you're perfect. It's time to stand up.
It's time to stand up.